Bon après-midi à tous. On est heureux de se retrouver, même sous ce temps fâcheux où nous avons dû nous abriter de la pluie. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner, pas trop arrosé. Je me souviens d'avoir donné une série de conférences à Pau, et c'était très tôt après le petit déjeuner. Il faisait bien sûr très chaud, la température était bien différente de ce qu'elle est dans cet après-midi du jeudi de l'Ascension, et j'ai eu un auditoire comme jamais je n'en ai eu avant. Tout le monde appréciait ma prédication. Devant moi, je voyais les têtes qui approuvaient, qui descendaient, qui remontaient. Tout le monde approuvait, dans un demi-sommeil bien sûr, la prédication. Alors nous venons aux choses sérieuses et nous ouvrons à nouveau notre Bible. Je vais relire dans le premier livre des Rois au chapitre 17. J'attends que vous ayez ouvert votre Bible. Chapitre 17 du premier livre des Rois. Et je reprends les quelques premiers versets. Élie, l'un des habitants de Galaad, dit au roi Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. C'était, je le rappelle, le premier pont aérien du monde. Et je continue, il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Voilà ce que nous avons médité ce matin. Et je continue. Je continue à lire, à partir du verset 8. « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela à nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, et après, nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » C'est la question de la veuve qui va retenir toute notre attention cet après-midi. Toute la prédication va pivoter autour de cette question. Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour... Eh bien, pourquoi Élie est-il allé à Sarepta? Mais avant de répondre à cette question, nous allons nous en poser une autre et nous demander pourquoi Élie n'est pas resté au torrent de Kérit. C'était l'Éternel qui l'avait conduit là. Et nous avons vu que tout dans la bénédiction qu'il avait reçue pivotait autour de ce petit mot de deux lettres, là. Il était béni de Dieu parce qu'il était là où Dieu voulait qu'il soit. Si donc Dieu l'y avait conduit, il devait s'y trouver bien. La solitude devait être propice à la méditation. Et le Dieu qui allait remplir la cruche d'huile pouvait aussi conserver un filet d'eau dans le torrent. Et si même l'eau du torrent allait tarir, les corbeaux, outre le pain et la viande qu'ils apportaient matin et soir, pouvaient très bien lui apporter de l'eau. Alors, pourquoi Élie n'est-il pas resté au Kérit et est-il allé plus loin? La réponse est simple. Dieu nous appelle rarement à quelque chose de définitif. Il ne pouvait rien y avoir de stationnaire dans la vie d'Élie, pas plus que dans la nôtre. Une expérience avec Dieu en appelle toujours une autre, qui sera le complément de la première. Notre Dieu, sachons-le, est un Dieu de mouvement. Au désert, l'Éternel n'a pas fait faire à Israël du surplace pendant 40 ans. Il les a fait voyager pendant 40 ans. Dieu craint pour nous l'ankylose spirituelle. Il sait très bien que nous risquons toujours d'être sclérosés dans notre vie intérieure. Alors, il nous fait faire des choses nouvelles en nous conduisant vers de nouvelles expériences. C'est aussi le langage du Nouveau Testament. Notre Seigneur ne restait pas en place, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, délivrant ceux que le diable avait asservis à sa puissance, nous dira l'apôtre Pierre dans son impressionnant discours à la maison de Corneille, dans le livre des Actes, chapitre 10 et verset 18. Pardon, verset 38. L'apôtre Paul n'était jamais arrivé à sa dernière expérience. Même à un âge avancé, il disait « Je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, je tends avec effort vers celles qui sont devant. » Il y avait une progression constante chez Paul. Il nous exhortera à aller de progrès en progrès. Il dira aux Corinthiens « Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et puis quand je suis devenu adulte, j'ai laissé les choses de l'enfance. » Le grand reproche qu'il fait aux Corinthiens, c'est d'en être resté aux choses enfantines. Il leur dit, « Je vous ai donné du lait et non pas de la viande, parce que vous n'étiez pas capables de la supporter. » Ils en étaient restés au régime lacté. Notre Dieu veut toujours que nous allions plus loin. Le frère Ralph Chalice a écrit un livre intitulé « Si tu veux aller loin ». Et Dieu veut que nous allions plus loin. Élie aurait pu rester au torrent de Kérit. Il aurait pu ne pas obéir aux impulsions intérieures du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Et je crains que, comme les Corinthiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'en restent au Kérit de leur vie. Souvenez-vous du père d'Abraham, il s'appelait Térakh, si je me souviens bien. Il a fait dans sa vie une expérience, une grande expérience, mais il n'est jamais allé plus loin. Il est sorti d'Ur en Chaldée, et il est allé vers la terre promise, mais il s'est arrêté à Charan. Et il n'y a plus rien eu à faire. Il en est resté là, il n'a pas voulu aller plus loin, il est mort à Charan. Certains aussi, dans leur vie spirituelle, sont allés jusqu'à Kérit, jusqu'à Charan, et ne sont pas allés plus loin. Ils ont fait une expérience bénie avec Dieu, mais ils n'en ont pas fait une deuxième, ni une troisième ou une quatrième. Il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 30 ans peut-être, que l'eau du baptême a séché sur leur peau, et ils en sont restés là, au souvenir de ce premier et ultime plongeon. Ils en sont restés au niveau de leur conversion, et ils sont là depuis longtemps, à attendre. Ils ne savent plus quoi. Il y a belle lurette que l'eau a tarie au torrent. Leur vie s'est desséchée, et ils lèvent vers le ciel des yeux suppliants, dans l'attente de corbeaux qui ne reviendront plus. Leur seule consolation, c'est de se décerner des brevets de constance et de persévérance. Comme l'apôtre Pierre à qui le Seigneur a demandé de tuer et de manger certaines choses, il croirait pécher contre Dieu à l'idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. En fait, il croit au Dieu vivant qui a l'immobilité et la fixité des idoles. Pour se donner bonne conscience, il cite l'Écriture qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » et il l'interprète « Conformons-nous donc au siècle passé ». Et ils ajoutent « Mais vous savez, nos pères ceci, nos pères cela. » Mais laissons-les tranquilles, nos pères. Ne couvrons pas nos faillites de leur grandeur. Parce que si nos pères ont été grands, c'est parce que eux ne se sont pas arrêtés au Kérit. Ils ne se sont pas, comme dit l'apôtre Pierre, attachés à la vaine façon de vivre qu'ils avaient reçue de leur père. Ils ont rué dans les rangs, dans les brancards. Ils ont bousculé des traditions. Lisez l'histoire des réveils. Ils ont laissé au Kérit ceux qui voulaient y rester, et ils sont allés plus loin. Il ne faut pas chercher ailleurs le secret de leur grandeur. Ne remuons pas les cendres de nos pères. Elles sont trop chaudes. Notre tiédeur s'y brûlerait. N'allons surtout pas les déranger dans leur tombe, parce que si nos pères se réveillaient, nous n'endormirions plus. Alors, la question qui se pose à nous, c'est « Voulons-nous aller plus loin ? Voulons-nous aller à Sarepta ?» Le Saint-Esprit le veut, et nous devons tous envisager d'y aller un jour. Et d'y aller aujourd'hui. Maintenant, que veut dire Sarepta? Eh bien, Sarepta est un mot qui, traduit en français, veut dire affinage. Affinage. C'est le programme de Dieu pour nos vies. Et pour y conduire Élie, et nous avec lui, Dieu met fin à une première expérience et l'engage dans une deuxième. C'est pourquoi l'eau qui tarit, et pour moi un aussi grand miracle que le pain et la viande que les corbeaux apportaient. Car l'eau qui s'arrête de couler au torrent va obliger Élie à aller plus loin. Et cela va coïncider avec les dernières tentatives de survie de cette pauvre femme. La première question a ainsi déjà reçu sa réponse. Pourquoi Élie n'est-il pas resté au Kérit? Parce que Dieu voulait qu'il aille plus loin. Maintenant, la deuxième question est pour nous celle que la veuve a posée. Homme de Dieu, Es-tu venu ici pour... Pourquoi ? Eh bien, il est venu pour elle. Ce n'est pas pour lui seulement, mais c'était aussi pour elle. Voyez-vous, toutes les expériences spirituelles que Dieu nous fait faire, ce n'est pas pour que nous nous en emparions en avare, mais pour que nous en fassions profiter d'autres. Il n'est pas d'expérience avec Jésus-Christ, si intime fût-elle, qui ne soit profitable aux autres autant qu'à nous-mêmes. Les victoires que nous remportons dans le secret de notre cœur ont une répercussion sur l'influence que nous avons sur les autres. C'est pourquoi il vaut la peine de remporter des victoires là où les hommes ne voient pas. Dieu en tire sa louange, nous en tirons un bienfait, et les autres un avantage, car la Bible dit en Romains 14, verset 7, que « nul ne vit pour lui-même ». Le livre des Proverbes, au chapitre 16 et verset 4, dit que Dieu a tout fait avec un but. Par exemple, quand Dieu sauve quelqu'un, il n'arrête pas son salut à lui-même. Nous ne sommes pas sauvés pour simplement être sauvés, mais pour le partager avec d'autres. C'est la même chose dans la sanctification. Si nous nous sanctifions, c'est pour que les autres en bénéficient aussi. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Lui qui était le Saint-Fils de Dieu, il se sanctifiait, il se séparait encore en vue d'en faire bénéficier les autres. Ainsi, si Élie est allé à Sarepta, c'était pour lui, mais c'était aussi pour elle. Et dans cette occasion, Dieu va se révéler comme le Dieu des extrémités, des situations sans issue et sans espoir. Cette femme touchait le fond. Elle était au dernier acte de sa vie. Elle n'avait plus qu'un morceau de bois. Elle allait préparer un dernier repas. Et puis, elle et son fils allaient attendre la mort. Elle le dit. Elle le sait. Elle est condamnée, et il s'est fait un grand silence dans sa vie, ce silence qui précède les grandes catastrophes, où le temps est comme suspendu et où les secondes fatales s'égrènent. Il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, et il se passe alors une chose bouleversante. Dieu lui demande le peu qui lui reste, comme si ce peu, c'était encore trop. Il ne lui reste qu'un peu d'eau, et au travers de son serviteur, Dieu lui dit « Donne-moi à boire ». Il ne lui reste qu'un petit repas, et Dieu lui dit « Donne-moi ce repas ». Il ne lui reste que son fils, et elle s'entendra dire « Donne-moi ton fils ». Les dernières choses auxquelles de la façon la plus légitime elle s'attache, elles lui sont demandées. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Eh bien, Dieu veut dire ceci. Donne-moi ce à quoi tu t'attaches encore et qui ne peut pas te sauver. Donne-les-moi et sois sauvé tout de suite. Voilà le raisonnement de Dieu. Mes amis, vous savez comme moi que quand Dieu sauve, il le fait toujours au dernier acte de notre vieille vie. Et Dieu veut qu'elle y arrive plus vite. Quand Dieu sauve un homme, il le sauve quand cet homme n'a plus rien et ne peut plus rien. Et il veut que tout de suite elle n'ait plus rien pour qu'il puisse la bénir. Chaque expérience que nous faisons est la répétition de celle-ci, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la sanctification ou que ce soit pour le service. Ce n'est jamais avant d'avoir perdu notre vie que nous la retrouvons. L'apôtre Paul, d'ailleurs, avant de pouvoir dire « Christ vit en moi », a dû dire « Je suis crucifié avec Christ, mort d'abord, arrivé au bout du rouleau, et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu bénit. » Et si parfois dans notre vie, Dieu nous demande ou nous arrache des choses auxquelles nous tenons tellement. C'est afin que, arrivant plus vite au bout de nous-mêmes, nous arrivions plus vite dans la bénédiction de Dieu. Troisième question. Pourquoi donc Élie est-il venu à Sarepta? Il y est venu pour elle, pour la faire naître à la foi au Dieu vivant et vrai, le Yahvé d'Israël. N'est-ce pas ce qu'a dit Jésus dans sa prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 3 ? « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais si Élie est venu à Sarepta, ce n'était pas seulement pour la faire naître à la foi au Dieu vrai et au seul vrai Dieu, mais c'était aussi, suivez-moi bien, pour que sa foi, donc la foi de cette femme, s'effondre et se ravive plus forte qu'avant. Cela, je le sais, demande une explication. Si la foi de cette femme est devenue réelle, elle n'avait cependant pas ce raffinement qui lui en donne son prix. Sa foi toute neuve était très semblable à la foi de ces gens dont il est parlé dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Beaucoup crurent en Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait. Mais il est tout de suite ajouté, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Autrement dit, Jésus ne les a pas reconnus comme d'authentiques croyants. Eh bien, c'était un peu le cas de cette femme. Elle vivait dans l'euphorie du miracle, de la cruche d'huile qui ne désemplissait pas, et du pot de farine qui ne se vidait pas. C'était la foi du merveilleux, c'était beau comme un conte de fées, mais c'était tout aussi fragile, comme l'est aussi la foi qui naît d'une intervention spectaculaire, d'un beau discours, d'un miracle signalé. C'est une foi extrêmement fragile. Et si vous aviez demandé à cette femme si elle retournerait un jour aux idoles de son peuple, elle vous aurait dit « Jamais ! Maintenant, je suis convertie, j'appartiens à l'Éternel, le Dieu d'Élie, le seul Dieu vivant et vrai !» Elle vous aurait peut-être même cité cette phrase fameuse de l'apôtre Paul « Je sais en qui j'ai cru !» Ah, mes amis, cette phrase, je l'ai parfois entendue de jeunes convertis qui ont aussi dit « Je sais maintenant en qui j'ai cru !» Et chaque fois que je l'ai entendue, j'ai tremblé pour eux. Savez-vous pourquoi ? Parce que quand l'apôtre Paul a dit cette phrase, il n'était pas au bout de sa vie chrétienne. Il était à la fin. Ce n'était pas une foi dont il disait qu'elle était à toute épreuve, mais c'était chez lui une foi qui avait été mise à l'épreuve. Et ayant été mise à l'épreuve, il pouvait alors dire « Je sais en qui j'ai cru ». D'ailleurs, avec devant elle la cruche d'huile qui ne désemplissait pas, il lui était facile de dire triomphalement « Je sais en qui j'ai cru ». Mais avec le cadavre de son fils devant elle, où est sa belle foi de tout à l'heure? C'est comme l'apôtre Pierre qui, dans une superbe confession de foi, dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Mais où était passée sa foi devant les serviteurs du souverain sacrificateur? Quand on lui a dit « Toi aussi, tu étais avec cet homme ?» Il a dit non, une première fois, et une deuxième fois, et une troisième fois. Où étaient les belles paroles qu'il avait prononcées quelques heures auparavant? Sa foi a craqué. De même, que dit maintenant cette femme? Elle dresse contre son bienfaiteur un doigt accusateur. De quel œil regarde-t-elle maintenant le serviteur de Dieu? Je vous le demande, où sont l'huile et la farine d'hier? Non, mes amis, une foi non affinée a tout fait d'oublier les bienfaits de Dieu. Une foi non affinée fluctue sur les impressions du moment. Une foi qui n'a pas été affinée est sur les hauteurs quand tout va bien, et elle est dans le tombeau dès que tout va mal. L'apôtre Paul, lui, avait une foi quasi insensible aux changements de circonstances. La prison n'était pas faite pour démonter sa foi. Dans la prison de la ville grecque de Philippe, lui et son compagnon Silas chantaient des cantiques. Et quand plus tard il sera tout seul dans l'un des donjons de l'empereur romain Néron, il écrira une de ses lettres, les lettres de prison, la lettre aux Philippiens, où constamment il parlera de joie, et même lorsqu'il va rencontrer la plus terrible épreuve de sa vie, qu'il sera traduit devant le tribunal romain qui va le condamner à mort, et qu'il devra dire « Tous m'ont abandonné, je suis resté seul », il ajoutera cependant « Mais le Seigneur s'est tenu tout près de moi, sa foi est restée ferme et sereine, comme le ciel quand il est bleu. » Donc, Élie était venu pour que elle naisse à la foi, pour que sa foi s'effondre et pour qu'elle renaisse plus forte qu'avant. Nous posons maintenant une quatrième question. Pourquoi Élie est-il allé à Sarepta? Eh bien, pour qu'il y ait correspondance, je dis bien correspondance, entre la femme et le lieu qu'elle habitait. Savez-vous pourquoi la foi de cette femme devait s'affiner? Mais justement, parce qu'elle était de Sarepta, et que Sarepta veut dire affinage. Avez-vous remarqué que nous associons toujours les personnes avec le lieu d'où elles viennent? Et nous nous attendons à ce qu'il y ait correspondance entre le lieu et la personne. C'est ainsi que quand nous rencontrons des amis marseillais, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, nous nous attendons à ce qu'ils aient l'accent. Nous comprendrions mal et nous serions déçus qu'il n'y ait pas un peu de soleil dans leur langage. Il doit nécessairement y avoir correspondance. C'est vrai quand on rencontre des gens de Touraine qui se targuent de parler le français le plus raffiné avec le meilleur accent. On s'attend à ce qu'ils aient maîtrisé leur syntaxe. Il doit y avoir une correspondance, un affinage linguistique. Et de même, quand les gens de l'extérieur nous regardent, nous côtoient et nous écoutent, il est normal qu'ils s'attendent à ce que nous ne soyons pas moins grands que notre profession de foi. En outre, le nom de chrétien que nous portons aussi celui de citoyen des cieux. Est-ce qu'il y a correspondance? Dites-moi, chez cette femme, qu'est-ce que le mot « Sarepta » représentait dans sa vie? Ça ne représentait rien. Elle avait vécu toute sa vie à Sarepta, sans que jamais il y eût correspondance entre elle et sa ville. Et même quand elle est venue à la connaissance du vrai Dieu, il n'y avait aucune réciprocité. Or, Dieu voulait que Sarepta ait une résonance de vérité dans sa vie comme dans la nôtre. Qu'il y ait une telle identité entre les deux qu'il fut désormais impossible de la voir sans comprendre, sans se rendre compte qu'elle était de Sarepta. Et après cette expérience, qui était aussi une épreuve, cette femme pouvait affirmer « Je suis doublement de Sarepta, une première fois parce que j'y suis né, une deuxième fois parce que c'est vrai dans ma vie de foi qui, elle aussi, a été affinée. » Nous aussi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes chrétiens et nous en sommes fiers. Nous sommes citoyens des cieux, mais dites-moi, est-ce que comme pour elle, c'est vrai deux fois? Une première fois parce que nous sommes nés de nouveau, et que notre vraie patrie c'est le ciel, et une deuxième fois parce que cette vie du ciel a pris une place authentique dans notre façon d'être sur cette terre? Cinquièmement, pourquoi Élie est-il venu à Sarepta? Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, et pour une autre que voici. Et là, nous reprenons la question de cette veuve. Es-tu venu chez moi pour rappeler le... Ou quoi? Es-tu venu chez moi pour rappeler, eh oui, le souvenir de mon iniquité? Voilà l'affinement qui manquait à sa vie. Dans la vie de cette femme, il manquait un élément capital. Elle avait une foi sans repentance, une foi qui la laissait intacte quant à son passé et grevée d'hypothèques quant à l'avenir. Une foi née du merveilleux qui n'a pas été précédée d'un labourage profond, d'un exercice de cœur et d'une conviction de péché. Or, Dieu tient à la repentance, il la veut, et il va s'arranger pour qu'elle vienne. Souvenez-vous des frères de Joseph, ce Joseph qu'ils avaient jeté dans une citerne vide et qu'ils avaient vendu à une caravane d'Arabes qui passait par là. Bien des années plus tard, quand ils se présentent devant le premier ministre du Pharaon, qui n'est autre que leur frère Joseph qu'ils ne reconnaissent pas, ils se font passer pour des braves gens, nous sommes des honnêtes gens. Et Dieu qui tient à ce que la repentance vienne, leur met des bâtons dans les roues, tant et plus. Et tout à coup, alors qu'ils sont là à discuter entre eux, le souvenir de ce qu'ils ont fait 20 ans plus tôt remonte à la surface, et ils passent par une repentance profonde, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Dieu peut réellement les bénir. Souvenons-nous que si Dieu a conduit Israël pendant 40 ans dans le désert, c'était pour que le peuple connaisse les choses qu'il y avait dans son cœur. Et nous avons tous besoin de savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Mes amis, je voudrais vous livrer ici les expériences d'un évangéliste. Je regrette que dans nos campagnes d'évangélisation, et malgré la prédication la plus fidèle qui soit, il y ait si peu de conversion dans les larmes et dans la repentance. Je vois avec tristesse des gens lever la main pour dire qu'ils se convertissent à Christ, et c'est tout juste si ce n'est pas en riant et en chantant qu'ils le font. Non, non, on n'entre pas dans le royaume de Dieu en riant et en chantant, mais sinon en pleurant, tout au moins dans le brisement que provoque la repentance des péchés passés. Certes, je n'oserais pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais je remarque que tout au long de leur vie, ça ne marche pas. Ils ont toujours besoin de cure d'âme, ils ont toujours besoin d'un soutien spirituel, toujours besoin d'un conducteur de leur foi, parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience décisive de la repentance par la conviction de péché, et n'ayant pas été brisés une bonne fois, Dieu est obligé de les casser tout au long de leur vie. Quand l'apôtre Paul a été terrassé sur le chemin de Damas, ça a été fait une fois pour toutes. Combien de serviteurs de Dieu, de grands prophètes de Dieu, ne pourraient-ils pas dire « Oui, c'est vrai, lorsque je me suis converti, j'ai pleuré sur mes péchés. J'ai saisi le salut de Dieu comme un noyé saisit une bouée de sauvetage. Je ne me suis pas converti dans la joie, mais dans les larmes. » Quand le travail de labourage de l'âme est fait une bonne fois pour toutes, croyez-moi, on n'a plus jamais à y revenir. Ah, mes amis, le passé, ce passé-là n'est jamais mort, et il revit toujours. Il ressurgit à la première épreuve, tant qu'il n'a pas été confessé aux pieds du Seigneur Jésus. Et croyez-moi, l'expérience m'a prouvé qu'il peut se passer bien des années avant qu'un homme se souvienne de ses péchés. J'ai connu des chrétiens qui ont dû attendre leur lit de mort pour se souvenir de leurs iniquités, et ça a été le terrible réveil avant le grand sommeil. Je le répète, Dieu la veut, cette repentance, et il s'arrangera pour qu'elle vienne. Chez certains, elle vient avant la conversion, c'est la norme. C'est Jean-Baptiste qui vient d'abord avec le message de repentance pour préparer les cœurs à prendre le chemin du Seigneur. Chez d'autres, repentance et foi viennent simultanément. Et dans d'autres cas, hélas, la repentance vient après. Mais Dieu veut qu'elle vienne afin que nous puissions nous frapper la poitrine à temps, afin que nous puissions nous juger à temps, afin, dit l'apôtre Paul, de ne pas être jugés avec le monde. Je vais maintenant poser une question. Est-ce qu'un chrétien peut vivre sa vie chrétienne pleinement avec un péché non jugé? Vivre, c'est beaucoup dire. Disons qu'il peut vivoter, mais il ne peut pas entrer dans la plénitude de Dieu, et il traînera avec lui toute sa vie une lourde hypothèque qui l'empêchera de saisir la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est lever l'hypothèque dans la vie de cette femme comme dans la nôtre, et la faire entrer immédiatement dans la pleine étendue de sa bénédiction. Eh bien, si c'est à ce prix que je dois entrer dans la bénédiction de Dieu, je vais dire, et vous allez dire avec moi, que ce terrible souvenir vienne et qu'il vienne sans tarder, car au travers de mes larmes, je pourrai encore l'accueillir comme une délivrance et la mettre au nombre de mes bénédictions. Sixièmement, être nourri par une veuve et qui de surcroît était pauvre, il y avait là de quoi humilier le grand prophète d'Israël. Mais voyez-vous, frères et sœurs, Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « L'humiliation précède la gloire. » Élie ne fut vraiment grand que lorsqu'il consentit à être petit et à prendre la nourriture du bec des corbeaux, puis de la main de la veuve. S'il est un péché capital sur lequel Dieu ne passera jamais dans le ministère de ses serviteurs, c'est l'orgueil. Et je bénis Dieu de ce que, immédiatement après ma conversion, alors que j'étais, et le mot n'est pas trop fort, alors que j'étais pourri d'orgueil, Dieu n'a pas attendu 3 mois pour me casser complètement. Et croyez-moi, ça a été terrible. C'est une épreuve qui a duré des années. Mais si Dieu ne m'avait pas brisé, il aurait été obligé de me mettre sur la touche. Alors le Seigneur veut, et il s'y emploiera pour que, je le répète, l'humilité habite dans tous les grands caractères. Septièmement, Élie est venu à Sarepta parce que si, au torrent de Kérit, il avait appris la leçon de la dépendance des corbeaux, quand les corbeaux sont partis, il ne leur devait rien, puisqu'ils n'étaient après tout que des corbeaux. Mais après avoir appris la dépendance, ici à Sarepta, il va apprendre la grande leçon de l'interdépendance, où la veuve ne vivra que par lui et lui par elle. Celui qui fait le miracle et celle qui en vit tirent leur subsistance du Seigneur et l'un de l'autre. Et cela préfigurera l'interdépendance du corps de Christ, où la tête ne peut pas dire au pied, parce que tu n'es qu'un pied, j'ai pas besoin de toi, où l'œil ne peut pas dire à la main, parce que tu n'es qu'une main, je n'ai pas besoin de toi. Cela veut dire que nous avons tous besoin les uns des autres. Le plus grand a besoin du plus humble, je répète là, le plus grand a besoin du plus humble et vice-versa. Dans l'assemblée, dans l'église où nous sommes, il n'est pas un membre de cette assemblée, de cette église, qui doit être rejeté ou méprisé, il a sa place dans le corps de Christ. Élie est aussi venu à Sarepta pour être comme son maître. Lui qui était riche, le maître, il s'est fait pauvre. Lui, Jésus, qui possédait tout l'or du monde, 1000 troupeaux sur les montagnes, la Bible dit qu'il était suivi de quelques femmes qui l'assistaient de leurs biens. Et la Bible nous apprend que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et si Jésus a dépendu de quelques femmes, Élie aussi a dû dépendre de cette veuve de Sarepta. Élie est aussi venu à Sarepta pour que Jésus puisse dire quelques siècles plus tard ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élie le prophète, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers celle de Sarepta. Et ces paroles sont un avertissement pour les privilégiés qui connaissent le nom du Seigneur, mais qui vivent sans se soucier de ses lois. Cela nous apprend que Dieu n'est pas lié et que sa grâce peut passer à d'autres. Sérieux avertissement pour les enfants chrétiens. La position de priorité qui est la leur peut être détournée et passée à d'autres. Jésus a dit aux Juifs qui se croyaient enfants d'Abraham par la simple filiation physique, « De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Le Seigneur a encore dit, « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, qui seront à table avec Abraham, et les enfants du royaume seront jetés dehors. » Huitièmement, si Élie est venu à Sarepta, c'est pour que lui aussi se pose la question, « Pourquoi ?» La femme lui a dit, « Pourquoi es-tu venu ?» Et il s'est posé la même question. Il a connu à son tour ce désarroi intérieur, et il l'a exprimé dans ce verset 20. Il coucha l'enfant sur son lit, il invoqua l'Éternel Dieu et dit, « Ô Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un hôte ?» Élie a dû se poser lui aussi des questions quand il a vu la mort de cet enfant. Moïse aussi, autrefois, s'est posé bien des questions et il a dit au Seigneur, « Seigneur, pourquoi m'affliges-tu de cette façon ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ?» Et Élie n'a pas pu répondre au pourquoi de la veuve. Il avait assez de pourquoi à poser et à se poser. Il est monté avec le cadavre de l'enfant, et là, seul devant Dieu, il lui a dit, « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ?» Et moi aussi, rien que dans mon ministère, que de questions n'ai-je pas posé au Seigneur ? Pourquoi, Seigneur ? Le message de vie doit-il être accompagné d'une expérience de mort ? Cette parole d'Adolphe Monod, qui a dit « Oh, la croix !» de la prédication de la croix. Pourquoi, Seigneur, as-tu confié un message de vie qui ne se manifeste que hors de la mort ? Seigneur, pourquoi as-tu confié à tes serviteurs un message qui, par certains côtés, ne plaît ni à celui qui le dit, ni à celui qui l'entend ? Combien souvent n'ai-je pas pensé dans mon cœur et même dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi faut-il que la bonne nouvelle de l'Évangile soit accompagnée d'une aussi mauvaise nouvelle que celle du jugement ? Seigneur, pourquoi me fais-tu caresser les gens à rebrousse-poil ? Ils sont comme des chats remplis d'électricité, et ça griffe parfois. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que ce soit hors de la mort que se manifeste la vie. C'est sur un message de jugement de péché et de repentance que vient alors et seulement alors se greffer le message du pardon et de l'offre de la grâce de Dieu. Neuvièmement, pourquoi Élie est-il allé à Sarepta ? Eh bien, il y est allé pour la postérité. Je souligne le mot pour la postérité. Il est surprenant de constater qu'il y a une similitude extraordinaire entre le miracle accompli par Élie et le miracle accompli par son successeur Élisée. Cela nous est rapporté dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 33. Je vous lis. « Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, c'est-à-dire l'enfant qui est mort et lui. Et il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa.
Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Ce miracle est presque une copie du premier, et on peut en déduire aisément qu'Élisée a trouvé dans la façon de faire de son père spirituel une inspiration quant à la marche à suivre. Dans une heure critique, toute pareille à celle-ci, il n'a plus eu qu'à suivre les jalons qui avaient été posés par Élie. Élie lui avait légué un trésor qui ne se comptait pas en or ou en argent, mais en exemple. Déjà une première fois, quand Élie a traversé le Jourdain, et qu'Élisée a vu les chars et les chevaux de feu emporter son maître au ciel, Élisée s'est retrouvé tout seul avec à ses pieds le manteau d'Élie. Ce manteau avait frappé le Jourdain, et le Jourdain s'était fendu. Élisée s'est écrié, « Où est le Dieu d'Élie ?» Il a repris le manteau, en a frappé le Jourdain, et le miracle s'est reproduit. Ici aussi, il se souviendra de celui qui est passé par là, et il s'inspirera du modèle qui lui a été laissé. Donc on peut dire qu'Élie est venu à Sarepta pour la postérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller à bien vivre notre vie chrétienne, parce que nous jetons sur ceux qui nous suivent une influence dont ils ne se rendent peut-être pas toujours compte, qu'ils rejettent même. Mais quand viendront les grandes crises de la vie, lorsqu'à leur tour ils se trouveront désemparés, ils se souviendront des exemples qu'ils ont vus, des pensées dont nous les avons entretenues, des prières dont nous les avons entourées, et alors le Saint-Esprit viendra illuminer leur vie, et ils s'écrieront comme Élisée, « Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Où est le Dieu de mes anciens? Où est le Dieu de mon Église ?» Et pour certains d'entre eux, ce sera l'occasion de retrouver le chemin qui conduit à la maison du Père. Jésus nous a laissé un modèle, est-il écrit, pour que nous suivions ses traces, pour recevoir l'illumination, pour savoir ce qu'il faut faire. Après 20 siècles, des millions d'hommes regardent encore à Jésus-Christ pour savoir comment se conduire dans les circonstances difficiles de la vie. Nous arrivons à la fin de cette étude, à la fin de cette journée de l'Ascension. Avec la veuve, nous avons posé la question, « Pourquoi es-tu venu ici ?» Nous avons vu, je récapitule, nous avons vu qu'Élie est allé à Sarepta par obéissance à un Dieu de mouvement. Deuxièmement, qu'il y est venu non pas pour lui seulement, mais pour elle, pour qu'elle naisse à la fois au Dieu vivant et vrai. Troisièmement, pour que la foi de cette femme s'effondre, puis s'affine. Quatrièmement, pour qu'il y ait correspondance entre elle et le lieu qu'elle habitait. Cinquièmement, pour lui révéler l'iniquité de sa vie et lever les hypothèques qu'elle traînait avec elle. Sixièmement, pour qu'Élie apprenne la leçon de l'humilité. Septièmement, pour qu'Élie expérimente plus que la dépendance, mais l'interdépendance. Huitièmement, pour se poser à son tour la question « Pourquoi ?» Neuvièmement, pour la postérité. Nous allons poser une dixième et dernière question. Pourquoi Élie est-il allé à Sarepta ? Le livre des Proverbes nous dit que Dieu a tout fait avec un but. Et ce but nous est rapporté dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous. Si donc c'est pour nous, il vaut la peine d'obéir à la parole de Dieu, de suivre les impulsions de l'Esprit et d'aller à Sarepta. Même si c'est pour y rencontrer les
Pourquoi es-tu venu ici, qui nous viennent de tous les azimuts? Car outre le fait que cette histoire se termine d'une façon heureuse, Sarepta, c'est une étape inévitable, indispensable, sur le chemin qui conduit à un service plus grand, et finalement aux chars et aux chevaux de feu. Et celui qui voudra y monter aura soin d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit en Ésaïe 30, verset 21, que je cite librement, « Que vous alliez à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une parole qui te dira, « Sarepta, affinage, c'est ici le chemin, marchez-y. » Et je répète, « Sarepta, c'est ici le chemin, marchez-y. » Inclinons-nous à présent dans la prière. Seigneur, tu nous donnes dans ta parole des exhortations tellement substantielles, elles se révèlent être d'une envergure exceptionnelle. Tu ne veux pas que nous nous contentions de médiocrité, que nous nous arrêtions à une première expérience, et qu'ayant commencé par l'esprit, nous finissions par la chair. Tu fais passer devant nous un épisode de la vie de ton serviteur, qui nous invite à aller plus loin, jusqu'à Sarepta, et avec toi. Seigneur, tiens-nous sous l'influence sanctifiante de sévérité que nous donne ta parole. Par l'action de ton esprit, poursuis et complète cet affinage que tu as commencé en nous. Achève ton œuvre dans nos vies, jusqu'à ce qu'elle ait cette qualité de foi qui a du prix à tes yeux. Seigneur, nous allons nous séparer, nous allons reprendre nos voitures, les cars qui nous ont amenés. Nous allons quitter la grande foule pour retrouver le petit nombre. Nous te demandons, Seigneur, que les leçons apprises aujourd'hui s'incrustent dans nos vies et que nous ne les oublions jamais. Nous te le demandons ensemble au nom de celui que tu nous as donné, le Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen.